le journal de Christelle Rebière. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un contrat engagement jeune. Emmanuel Macron lance à l'instant son dispositif maintes fois promis. 500 euros par mois en échange d'une formation. Il concernera finalement 500 000 jeunes. Elle ne pouvait pas être absente. La reine Elisabeth est apparue en vidéo pour mettre les chefs d'État face à leurs responsabilités face au changement climatique. Une centaine de pays va s'engager à lutter contre la déforestation. Encore un peu de suspense. La France donne jusqu'à jeudi aux Anglais pour accorder de nouvelles licences à nos pêcheurs. Les mesures de rétorsion attendront encore un peu. Nicolas Sarkozy convoqué par la justice. Il sera entendu dans l'affaire des sondages de l'Élysée et pour un ancien président qui bénéficie d'une immunité, c'est tout à fait inédit. Une élection test en Virginie pour un disciple de Joe Biden et puis se rendre au stade sans que ce soit un parcours du combattant. L'Europe veut enfin que les supporters handicapés ne soient plus hors-jeu.
Et l'invité du grand entretien ce matin est philosophe et écrivain Gaspard Koenig, qui publie dans quelques jours Simplifions-nous la vie aux éditions L'Observatoire. Il part en lutte contre la paperasse administrative. Il nous détaillera ça tout à l'heure. Appelez-nous 01 45 24 7000.
France Inter. Elle avait choisi une robe verte, bien sûr. La reine Elisabeth, qui n'a pas pu se rendre à Glasgow, est apparue en vidéo à l'issue du premier jour de la COP26 pour souhaiter la bienvenue au chef d'État, mais aussi dans son style poli et ferme pour les contraindre.
None of us underestimates the challenges ahead.
Aucun d'entre nous ne sous-estime les défis à venir. Mais l'histoire a montré que quand les nations parviennent à faire cause commune, il y a toujours de l'espoir. En travaillant main dans la main, nous sommes capables de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus importantes adversités. Bien sûr, nous qui vivons aujourd'hui ne verrons pas le résultat de ces actions. Personne n'est éternel. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants, et les enfants de nos enfants, ainsi que ceux qui suivront.
Place à l'action donc, et déjà une centaine de pays qui abritent à eux seuls 85% des forêts mondiales vont s'engager à lutter contre la déforestation d'ici 2030, alors que pour l'instant les forêts reculent au rythme de 27 terrains de football par minute. C'est essentiel évidemment pour parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 degré, mais quand on voit les pays qui s'engagent, Sandy Dauphin, bonjour, on est en droit de douter de leur sincérité.
Oui, la forêt boréale au Canada, l'Amazonie au Brésil, la forêt tropicale du bassin du Congo ou encore la taïga sibérienne, ce sont de véritables pompes naturelles à carbone qui extraient le CO2 de l'atmosphère et le stockent dans les arbres. Sauf que ces poumons verts sont menacés par la déforestation. Les arbres sont abattus pour laisser pousser des villes, mais surtout des champs et des pâtures pour l'élevage. Les forêts sont aussi victimes du réchauffement climatique. Sécheresse et chaleur favorisent les incendies monstres qui déciment des millions d'hectares comme cet été au Canada. Ce nouvel engagement international contre la déforestation prévoit 16,5 milliards d'euros d'argent public et privé pour aider à restaurer les forêts dégradées ou encore soutenir les peuples autochtones qui y vivent. Initiative saluée par les ONG, mais attendre 2030 pour enrayer la déforestation, c'est trop tard, estime Sylvain Engérand de l'Association pour la protection des forêts canopées. Il doute aussi de l'engagement de certains pays signataires.
L'autre gros point d'interrogation, c'est la signature d'un certain nombre de pays dont on peut légitimement douter de leur bonne foi, notamment la République démocratique du Congo, le Brésil. Alors, c'est intéressant de le voir le Brésil signer cette initiative, mais quelle crédibilité derrière. Depuis 3 ans, on a des taux de déforestation records. Donc, on va dire que le signal est intéressant, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des actions concrètes. On les connaît et on doit les voir de façon beaucoup plus précise.
Aujourd'hui, certaines parties de la forêt amazonienne sont tellement abîmées qu'elles rejettent du CO2 dans l'atmosphère au lieu d'en capter.
Sandy Dauphin, avec les moyens techniques de Martin Troadec en direct de Glasgow. Au même moment, la Chine, qui brille par son absence, augmente de 1 million de tonnes par jour sa production de charbon. Il s'agit de faire face à la pénurie d'électricité. Ils passeront l'hiver coupés du monde, à quelques dizaines de kilomètres seulement de Nice, et c'est une énième illustration du dérèglement climatique. Ils seront 5 seulement à habiter au hameau de Casterino, dans la vallée des Merveilles, au-dessus de Tende, car la tempête Alex en septembre 2020 a emporté la route. Seules 2 pistes forestières sont de nouveau praticables. Et parmi ceux qui ont choisi de rester, un couple de retraités qui a rencontré Violaine Hill.
Audrey et son mari ont fait le choix de rester, mais comme il n'y a pas de route, ils ont fait le plein de provisions. au moins un mois, avec des légumes, de la viande, avec du poisson. Après, tout ce qui est sec, pâtes, purées, etc. C'est facile à stocker, donc ça aussi, on a pris nos précautions et on a déjà pris pour tout l'hiver.
Du côté des énergies, de l'eau, de l'électricité, tout est prévu.
On a des cuves d'eau, on est au solaire, on a Internet satellite, on est complètement autonome.
Et ils n'ont pas de soucis pour les imprévus.
Si jamais il arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre pour la santé, on sait qu'il y a un hélicoptère qui peut venir nous récupérer. Ce sont des conditions très difficiles, mais on est quand même à 15 minutes d'hélicoptère de Nice.
Ce sera leur premier hiver depuis 2 ans. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi la route, détruite par la tempête Alex, n'a pas été reconstruite.
C'est d'autant plus incompréhensible d'ailleurs qu'un an après, on en soit toujours à ce niveau-là. Et ça va durer encore un an, puisque la route n'est pas prévue pour réouvrir avant l'hiver 2022-2023.
Certes, ils ont prévu de descendre de temps en temps pour des produits frais, mais ce sera avec des raquettes et quand il n'y a aucun risque d'avalanche.
Un reportage de Violaine Hill de France Bleu Azur.
Il est 8h06 finalement, il est minuit moins une sur le dossier de la pêche.
Oui, pour reprendre l'expression utilisée hier par Boris Johnson à la COP26, Paris accorde un nouveau délai aux Anglais jusqu'à jeudi pour accorder de nouvelles licences aux pêcheurs français. Une nouvelle réunion de négociation aura lieu à Paris. Entre-temps, pas de mesures de rétorsion. Rémi Brancato, vous êtes en direct de Barneville-Carteret dans la Manche. Et pour les pêcheurs habitués des eaux anglo-normandes de Jersey, l'île en face de leur côte, c'est toujours l'incertitude.
Oui, avec tout de même, Christelle, ce matin, une pointe d'éclaircie sur le port de Barneville-Carteret à l'image de la météo, plus claire qu'hier. Romain Davaudet, pêcheur que nous avons croisé avant son départ en mer il y a quelques minutes, attend toujours sa licence pour accéder aux eaux anglo-normandes de Jersey. Il a l'habitude d'y pêcher et ce matin, il est un peu plus optimiste.
On m'a dit qu'il y avait des licences que Jersey a attribuées en plus, hier soir. 49, ce serait pas mal.
Ici, 3 bateaux sur 18 attendent encore une promesse de licence de Jersey pour Romain Davaudet. Les négociations en cours entre Françaises et Britanniques semblent porter leurs fruits, les tensions s'apaisent quelque peu.
S'il y avait eu une mesure de rétorsion, ça aurait voulu dire qu'il n'y a pas de négociation. Donc il vaut quand même mieux qu'il y ait des négociations qui s'engagent plutôt que des rétorsions avec une escalade des deux côtés. Ça va donner plus de chances pour avoir des licences pour pêcher en Angleterre. C'est mieux parti qu'avant.
Pour autant, il ne faut pas baisser la garde, dit-il. Les mesures de rétorsion doivent rester une menace. C'est aussi ce que nous disait hier soir David Le Gouette, le maire de Barneville-Carteret, ici sur le quai. Des pêcheurs anglais viennent régulièrement débarquer, vendre leur pêche.
Je l'ai dit dès avril, quand on sait que 80% de la pêche de Jersey et Guernesey est vendue en France, puisqu'ils n'acceptaient plus les pêcheurs français, c'était de plus accepter le produit de la pêche anglo-normande.
Mais le maire ne souhaite évidemment pas en arriver là. Il espère que les négociations aboutiront.
Rémi Brancato avec les moyens techniques de Christophe Papon. Il avait été promis, annoncé, amendé, encore modifié sur son format, son coût. Voici le contrat d'engagement jeune pour les jeunes de 16 à 25 ans. Emmanuel Macron vient de signer un texte sur Facebook pour présenter ce dispositif. Un contrat engagement jeune, les termes sont soigneusement choisis, Simon Le Baron.
Oui, un contrat d'engagement et pas un revenu d'engagement. Alors, ce sera une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois pour les jeunes de 16 à 25 ans en grande précarité. Et en échange, ces jeunes devront s'engager à suivre un accompagnement, une formation de 15 à 20 heures par semaine. Ce dispositif sera mis en place à partir du 1er mars. En revanche, Emmanuel Macron ne dit pas pour combien de temps, ni combien de jeunes seront concernés. Environ 500 000 a priori, pour un budget d'un peu plus de 500 millions d'euros. On est loin du million de bénéficiaires et du milliard d'euros envisagé au départ.
Oui, c'est ça, le dispositif est moins ambitieux que prévu, Simon.
Et oui, parce qu'il a fait l'objet d'une intense bataille de financement, comme souvent au sein du gouvernement, entre Elisabeth Borne au ministère du Travail et Bruno Le Maire à Bercy, qui tient les cordons de la bourse. Voilà pourquoi le gouvernement a autant tergiversé, alors que le président de la République avait promis de faire cette annonce à la rentrée dans son adresse aux Français du 12 juillet. Et puis, Emmanuel Macron ne voulait surtout pas donner l'impression de mettre en place un RSA jeune réclamé par la gauche, mais qui aurait hérissé la droite, d'où ce terme effectivement de contrat d'engagement finalement choisi, alors que lui-même avait parlé de revenus le 12 juillet. pour éviter les procès en assistana, donc, et en argent magique, le chef de l'État a choisi l'option basse pour cette annonce jeunesse, et ce n'est sans doute pas un hasard s'il le fait ce matin par un simple message sur Facebook.
Merci Simon Le Baron. Nicolas Sarkozy au palais de justice de Paris comme une impression de déjà-vu, mais c'est encore pour une situation inédite. Pour la première fois, un ancien président est convoqué par la justice comme témoin sur des faits commis à l'Élysée à l'époque où il en était locataire. C'est l'affaire dite des sondages, commandés sans appel d'offres entre 2007 et 2012. Il sera entendu comme simple témoin, même si la justice a décidé de le contraindre à venir au besoin par la force. Bonjour Laurélie Carive.
Bonjour.
Et il se présentera donc à l'audience.
Oui, son avocat a mis fin au suspense vendredi. Pas besoin d'aller le faire chercher par les forces de l'ordre. Nicolas Sarkozy sera bien là, tout à l'heure, au tribunal judiciaire de Paris, dans cette même salle qu'il a déjà vu comparaître dans le dossier des écoutes, puis Big Malion. Mais cette fois, c'est donc en tant que témoin que l'ancien président sera interrogé. Anticor, l'association qui a porté l'affaire des sondages de l'Élysée devant la justice, réclame cette audition depuis longtemps, mais au nom de son immunité présidentielle, Nicolas Sarkozy avait refusé de se rendre au rendez-vous fixé par le juge d'instruction en 2016. Le magistrat avait décidé d'en rester là, pas le tribunal, qui estime que son témoignage est, je cite, « nécessaire à la manifestation de la vérité ».
Pour autant, il reste un certain nombre d'interrogations sur ce qui va se passer cet après-midi au tribunal.
Alors, on l'imagine mal refuser de prêter serment, mais il pourrait se retrancher derrière son immunité pour garder le silence. Et dans ce cas, impossible de lui infliger l'amende prévue par la loi, explique le constitutionnaliste Bertrand Mathieu.
Le problème, c'est que peut-être on peut l'interroger, mais en tout cas, s'il refuse de répondre, on ne peut rien contre lui. Parce que dans ce cas-là, ça serait une sanction qui sera en lien avec ses activités de chef de l'État. Donc, c'est une situation qui est extrêmement ambiguë.
À l'inverse, si l'ancien président choisissait d'assumer sa position de donneur d'ordre pour ses centaines de sondages commandés sans la moindre mise en concurrence, les juges se retrouveraient là aussi dans une situation complexe avec des prévenus qui n'ont fait qu'exécuter et le principal responsable protégé par son immunité.
Laurélie Carive, au même moment, son ancien parti Nicolas Sarkozy, devenu Les Républicains, recevra les parrainages de 6 candidats à la candidature. Ils ont jusqu'à en fin d'après-midi pour déposer la liste de leur soutien. Seul Denis Père ne devrait pas atteindre les 250 parrainages d'élus requis. Le candidat sera ensuite désigné en congrès le 4 décembre par les militants. Une élection test aux États-Unis pour Joe Biden, celle du nouveau gouverneur de Virginie. Elle aurait dû passer inaperçue et pourtant, depuis une dizaine de jours, les poids lourds du Parti démocrate y défilent en soutien à leur candidat, alors que la course est particulièrement serrée. Ils craignent en effet, au-delà du symbole, les effets à l'échelle nationale d'une telle défaite à un an bientôt des élections cruciales de mi-mandat. Loïc Loury.
Il y a quelques jours, c'est Joe Biden lui-même, preuve de l'importance du scrutin qui appelait les Virginiens à voter pour le candidat démocrate. Le président, dont la popularité est en baisse, le sait. Ce scrutin fait figure de thermomètre politique, de répétition à un an des mi-termes, d'où la mobilisation de son camp avec en tête de gondole la vice-présidente Kamala Harris ou Barack Obama. Virginie, tu as une grande responsabilité car tu choisis ton gouverneur, mais tu fais aussi un choix quant à la direction que prend notre pays. Car une déconvenue dans un État tenu par les démocrates et remporté par Joe Biden à la présidentielle serait un mauvais signe annonciateur de défaites futures. Si nous l'emportons, assure ainsi Glenn Youngkin, le candidat républicain, aucun démocrate ne sera plus à l'abri de perdre son siège. Il est temps de nous mobiliser, la nation nous regarde, elle a besoin de nous et nous allons gagner. Ce sera une déclaration adressée à notre pays, une onde de choc, littéralement, qui se propagera à travers l'Amérique. Une élection locale aux enjeux nationaux pour les démocrates en premier lieu, qui n'ont rien à y gagner mais tout à y perdre. Les deux candidats à la veille du scrutin étaient presque à égalité. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le public retrouve enfin les stades. On l'a vu hier encore à Paris-Bercy pour le Masters 1000, gorgé de 18 000 spectateurs. Mais pour certains supporters, le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant. Une enquête européenne est menée actuellement pour améliorer l'accueil des handicapés dans les stades. Un sondage a lieu en France, en Allemagne, en Belgique, piloté par le Centre d'accès au football en Europe pour trouver des solutions d'inclusion. Et il y a encore beaucoup à faire, Alice Cachaner.
Le football a beau être le sport le plus populaire au monde, les infrastructures continuent d'exclure ou discriminer les supporters handicapés. Ahmed est fan de l'Olympique de Marseille et depuis son fauteuil roulant en tribune, il ne parvient pas toujours à voir le match.
L'OM a attribué des places, mais la visibilité, c'est une catastrophe. Ils ne facilitent pas en fait le quotidien des personnes en les plaçant par exemple dans des virages où les gens, ben, les valides, ils se lèvent quand il y a des actions qui sont plus ou moins chaudes. Donc la personne en fauteuil, ben, elle ne peut pas se lever, elle est là dans le coin et on est empêché de voir tout simplement parce qu'on est mal placé.
Même si quelques progrès ont été faits dans les stades, notamment en matière d'audiodescription, c'est loin d'être généralisé et suffisant. Il y a les problèmes de réservation de billets en ligne, le manque de rampes, d'ascenseurs, de places de parking adaptées. La liste des lacunes est longue, regrette René Poutet, président de la Fédération française des supporters de foot handicapés.
Quand un stade est fait ou quand il est à faire ou quoi que ce soit, on ne pense pas aux personnes en situation de handicap. Tous les clubs, c'est comme ça. Donc, effectivement, nous avons les gens qui ne veulent plus venir. Ils disent... on est discriminé à un moment donné.
Les supporters handicapés ont jusqu'au 14 novembre pour participer à cette étude qui doit permettre à terme de proposer une boîte à outils aux différentes fédérations et ligues de football.
Et en football ce soir, Lille se déplace à Séville en Ligue des Champions. Dernière chance pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Une nuit interminable. 1200 voyageurs partis de Clermont-Ferrand sont arrivés à Paris avec entre 4 et 6 heures de retard. Ils voyageaient à bord de 3 intercités. Alors le premier a heurté un sanglier. Puis il a subi, comme les deux autres trains, une panne électrique près de Fontainebleau. Ils ont dû être transbordés dans un transilien. Quand ça veut pas, ça veut
ça
pas.
Ça veut pas. Merci Christelle Rebière. Et la météo part à l'heure.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Stéphanie, deux perturbations s'expriment dans le ciel.
Oui, la première, c'est celle qui est passée hier sur l'Hexagone. Elle est en train de s'évacuer, mais elle se situe maintenant dans l'Est, donnant encore au réveil des pluies régulières sur le Grand Est, la Franche-Comté et les Alpes pour rejoindre le nord du Grand Est en cours de journée. La seconde est rentrée par l'Ouest et le Sud-Ouest. Elle évolue très vite. On la retrouve ce matin sur le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le nord du Limousin. Elle progresse doucement sur l'Auvergne. Les pluies associées sont faible, se transformant en neige au-dessus de 1200 mètres sur le massif central. Partout ailleurs, le ciel est en proie à la nébulosité. Quelques éclaircies parviennent à remplacer parfois les averses au nord-ouest, sauf sur les côtes de la Manche, où le temps est encore à l'orage. Des éclaircies plus fortes entre les Pyrénées, le golfe du Lion, le sud de la vallée du Rhône et la région PACA, à la faveur d'un vent qui souffle par rafale de 90 à 130 km par heure du Pays Basque au Cap Corse.
Et Mercure s'installe dans l'automne par le nord. Expliquez-nous ça.
Eh ben, il laisse encore un petit peu de chaleur entre Toulouse et la Côte d'Azur avec 16-21 degrés, mais il nous amène aujourd'hui dans des valeurs de saison partout ailleurs. Dès le réveil, vous sentez la fraîcheur, 6 degrés au nord, 9 au sud. Cet après-midi, ne comptez pas sur plus de 13 à 16 degrés du nord au sud. 13 à Tours, Paris, La Rochelle, Nevers et Clermont-Ferrand. 16 degrés à Cahors, Lyon, Valence et Montauban.
Merci Stéphanie, rendez-vous tout à l'heure après le journal de 9h. France Inter, il est 8h18, géopolitique.